Et nous retrouvons nos spécialistes de relations internationales, Lélia Rousselet. Vous êtes vice-présidente de l'Institut Open Diplomatie. Vous avez notamment publié « Négocier l'atome » au sujet donc de l'accord entre les États-Unis et l'Iran au sujet du nucléaire. C'est publié chez l'Harmattan. Frédéric Ancel, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous avez notamment publié « Mon dictionnaire géopolitique » aux presses universitaires de France. Et Frédéric Saïs vient de dire qu'Emmanuel Macron comprend Donald Trump, ce qui est déjà un avantage, et qu'il le comprend comme un deal maker. Ce qui s'est déroulé en Corée du Nord, est-ce en quelque sorte le savoir-faire d'un deal maker, Frédéric Ancel?
En tout cas, il y a eu le fait d'assumer les rapports de force. Alors, ça peut passer, si vous voulez exprimer un rapport de force, ça peut passer par des insultes, par des tweets grotesques, ça peut passer par des communiqués beaucoup plus sages, beaucoup plus pondérés façon Obama. À la fin des fins, l'important, c'est de l'emporter au regard de son propre objectif. Bon, je résume à outrance, mais c'est un peu comme ça que ça se passe la géopolitique. Et manifestement, ça a marché. C'est-à-dire que, connaissez la formule, la preuve du pudding, c'est qui se mange. Si on arrive réellement à se mettre d'accord à la table des négociations entre la Corée du Nord d'une part, les États-Unis et leurs alliés, n'oublions pas le Japon notamment dans la région, d'autre part, sur un gel, en tout cas une désescalade, vous avez employé le mot à juste titre tout à l'heure, voire même un gel de l'augmentation du potentiel nucléaire nord-coréen, tout le monde y aura gagné. En dépit d'une crise, alors finalement a posteriori, simplement rhétorique, de cet hiver qui a fait peur à tout le monde.
C'est pas rien parce que
si vous voulez, les accidents, ça arrive vite. Et un accident nucléaire, c'est beaucoup plus grave qu'un accident d'une autre nature.
Mais oui, d'autant, alors c'est un peu une pierre dans votre jardin, pas votre jardin à vous, Frédéric Ancel, mais celui de votre discipline. Beaucoup d'experts étaient extrêmement pessimistes. Il y a 2 mois, disaient que Kim Jong-un était imprévisible, que Donald Trump l'était tout autant et que ces tirs de missiles pouvaient très mal se terminer. Vous vous êtes trompé, vous, les spécialistes ?
On en a peut-être dit ou fait beaucoup, mais en même temps, encore une fois, il ne s'agit pas d'arc à flèche, mais de bombes atomiques. Autrement dit, c'est tout ou rien. Si la crise se résorbe, ça aura été formidable. Si elle ne se résorbe pas, ça signifie que c'est la guerre nucléaire. Donc vous comprenez bien que, oui, beaucoup de géopolitologues, c'est l'hiver dernier, dont je n'étais pas forcément, parce que je suis assez habitué à ce genre de démonstration, ou à ce genre de concours de démonstration de force en quelque sorte. Mais effectivement, c'était quand même pas très rassurant, parce que le moins qu'on puisse dire, et là tout le monde en conviendra je crois, c'est que ni le chef d'État nord-coréen, ni le chef d'État américain nous ont habitués à une prévisibilité totale.
Mais là, on ne comprend pas bien ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a changé pour que, encore une fois, en l'espace de quelques semaines, on passe donc d'une situation de pré-guerre à un Nobel de la paix pour Donald Trump, c'est ce qu'on a pu lire ?
Pour le régime nord-coréen, l'objectif fondamental, c'était le maintien précisément de son existence en tant que régime. Ça, c'est très important. Et la Corée du Nord a toujours eu craint comme la peste les tentatives occidentales, américaines en particulier, de l'abattre en tant que régime. Bon. Si on négocie maintenant avec Pyongyang sur le gel de son arsenal nucléaire, ça signifie bien qu'on le reconnaît comme un régime finalement légitime, qu'il soit démocratique ou pas, en l'occurrence il ne l'est pas du tout, et qu'on reconnaît sa capacité un jour, potentiellement, à pouvoir faire la bombe. En échange de quoi, la Corée du Nord ne va pas plus loin, autrement dit, ne transgresse pas ce fameux traité de non-prolifération. J'insiste, c'est très important, il date de 68, et jusqu'à présent, il a toujours assuré l'architecture de la paix nucléaire dans le monde.
Mais est-ce qu'on en est là, ou est-ce qu'on n'a pas franchi une étape supplémentaire, puisque dans le récit qui était fait, par exemple, dans le New York Times, de la rencontre entre les deux chefs d'État coréens, on avait quasiment l'impression qu'on était en marche vers la réunification.
Attention au travers inverse en quelque sorte, c'est-à-dire autant.
Oui, mais c'est bien de cela dont il est question. Voilà. C'est-à-dire après avoir parlé de guerre, est-ce qu'on ne parle pas un peu trop d'amour ?
Voilà, je le crois. Je pense d'abord, il n'y a pas d'amour et rarement d'amitié dans les relations internationales. Donc je pense que là,
il peut y avoir des preuves d'amour.
Il y a des preuves d'amour. Voilà, c'est très bien dit. Mais je pense que là, on est dans l'expression manifeste d'une désescalade. Ça ne signifie pas qu'on ira à la réunification, parce que si c'était le cas, ça signifierait bien que le régime nord-coréen chuterait. Or, par définition, il a réussi très très visiblement à être reconnu comme un régime acceptable.
Est-ce que c'est une bonne chose pour la Chine ?
Non seulement c'est une bonne chose pour la Chine, mais je crois que la Chine, on ne peut pas la balayer d'un revers de main quand on parle de la Corée du Nord. D'abord parce que c'est le seul allié militaire de la Corée du Nord. La Chine est le seul allié au monde de la Corée, certainement pas la Russie. La Russie est un partenaire, n'est pas un allié. Et vice-versa. Le seul allié militaire de la Chine, c'est la Corée du Nord. D'une part, d'autre part, les Chinois veulent démontrer au monde entier qu'ils peuvent et qu'ils savent jouer le rôle d'honnête courtier. Et que sans eux, on ne peut rien faire. Et en même temps, notez que ces derniers mois et ces toutes dernières années, la Chine a entretenu une politique très, très dure, très restrictive vis-à-vis de la Corée du Nord, en tapant du poing sur la table à plusieurs reprises. Donc je pense que la Chine sortira grandie de la crise comme l'État qui a contribué à permettre cette désescalade.
Bon, en tout cas, on retrouve le même parallèle que celui que l'on faisait tout à l'heure avec l'Iran, puisque l'Iran espérait que cet accord sur le nucléaire lui permette de retrouver une certaine aisance économique, ou sinon une certaine aisance, en tout cas la fin est de l'embargo et un retour à une vie économique normale, ce qui n'est pas le cas et ce qui aujourd'hui pèse assez lourd. La Corée du Nord est aujourd'hui dans une situation économique précaire. La paix voudrait dire qu'elle retrouve un peu d'oxygène sur le plan économique. Est-ce que Donald Trump, qui va bientôt rencontrer Kim Jong-un, il serait prêt? Alors là aussi, c'est compliqué de faire des prévisions s'agissant de Donald Trump, Frédéric Ansel.
Oui, je pense qu'il y serait prêt. Ça, c'est pas quelque chose d'ailleurs qui coûterait très cher aux États-Unis. La Corée du Nord, oui, bien sûr, une bouffée d'oxygène, parce que c'est ce qui est recherché aussi par le régime, parce que des crises socio-économiques dures, graves, lourdes, qui menacent des régimes, ça existe partout au monde. On l'a bien vu avec le printemps arabe, on l'a vu à deux reprises avec ce qu'on aurait pu appeler le printemps iranien. Donc un régime au pouvoir tient compte aussi de la manière dont sa population peut manger ou pas à sa faim.
Oui, mais c'est pas rien quand même, parce que la Corée du Nord tient depuis 65 ans sur une propagande révolutionnaire. Il faut rappeler aussi que les cartes de la Corée du Nord ne représentent pas uniquement le territoire de la Corée du Nord, mais de la totalité de la Corée. Donc s'il y a accord de paix entre les deux Corées, cela signifie que symboliquement, la Corée du Nord va perdre la moitié de son territoire.
Oui, alors très symboliquement. Vous avez raison, dans les représentations officielles, vous avez raison. Mais je pense qu'en échange, encore une fois, de l'assurance que son régime ne sera pas attaqué de l'extérieur, et d'autre part, du maintien de ce potentiel nucléaire, je pense que ce serait considéré comme un bon deal. J'ajoute juste un point, si vous le permettez, c'est que la différence fondamentale, me semble-t-il, entre la Corée du Nord et l'Iran, c'est simplement que la Corée du Nord dispose d'un allié superpuissant dans la région qu'est la Chine. L'Iran ne dispose pas d'un allié militaire puissant dans le monde. Son seul allié, c'est Assad. C'est un petit peu léger. Contrairement à ce qu'on a souvent prétendu, la Russie n'est qu'un partenaire, mais certainement pas un allié militaire de l'Iran.
Alors, on va reparler de la situation en Iran, mais tout d'abord quand même une conclusion sur Donald Trump, auquel on prête l'envie d'avoir le prix Nobel de la paix. Pourquoi pas? Tout à l'heure, vous étiez impassible, Frédéric Ansel. On a vu qu'un certain nombre de stratégies, comment vais-je les qualifier? Je vais les qualifier de robustes, par exemple celle de Ronald Reagan, au moment de la guerre des étoiles contre l'Union soviétique. Soviétique avait eu une certaine incidence, une certaine efficacité sur la fin de l'Union soviétique. Est-ce que du coup, on pourrait dire que cet homme, auquel on ne prêtait pas de grandes qualités sur le plan donc de sa conception géopolitique, aurait abouti à des résultats véritables sur la péninsule coréenne ?
Moi, je pense qu'assumer la puissance, lorsqu'à fortiori, on représente la première puissance mondiale, c'est tout à fait essentiel, c'est très important, et je ne considère pas, comme géopolitologue, la puissance comme une dimension ou un phénomène négatif. Après tout, on défend ses valeurs, on défend ses intérêts en étant puissant et certainement pas en étant faible. Trump, on ne lui reproche pas d'être puissant, on lui reproche d'être imprévisible. Et souvenez-vous de sa campagne électorale et d'ailleurs de la période qui a suivi la campagne et ses incohérences absolues, notamment sur la Russie, sur l'OTAN, y compris d'ailleurs sur la Chine, sur les taxations des produits chinois, etc. Et sur le Proche-Orient. Donc c'est ça le véritable problème aujourd'hui de Trump. C'est pas que c'est un faucon, c'est que c'est quelqu'un qui est fondamentalement imprévisible dans un certain nombre de domaines. Et pas seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. C'est la raison pour laquelle je doute tout de même qu'il puisse obtenir, en tout cas à court terme, un prix Nobel quelconque.
Sur le dossier iranien, Lilia Rousselet, et il y a aujourd'hui un risque souligné sur ce protocole de paix et cette désescalade nucléaire. que pourrait-on imaginer en matière de d'accords possibles? Qu'est-ce que veut le pouvoir aujourd'hui à Téhéran? Qu'est-ce qu'il est prêt à négocier?
Alors, pour l'instant, la position officielle à Téhéran, c'est de dire qu'il n'y aura pas de renégociation de l'accord. Mais en ça, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment, et notamment ce que propose Emmanuel Macron, sa stratégie des quatre piliers, parce que finalement, ça lui permet de
quatre
dire...
Quatre piliers, c'est-à-dire?
Alors, le premier pilier qui consisterait à dire « je maintiens le JCPOA », donc l'accord sur le nucléaire iranien, mais de rajouter trois autres piliers. Le premier qui consiste à parler du post-2025, donc des sunset clauses, qu'on appelle les sunset clauses. Donc, c'est les clauses qui s'arrêtent en 2025. Le deuxième pilier qui concerne...
Et qui comprennent quel type de clauses?
Alors, c'est des clauses sur l'uranium, etc., qui sont pour contrôler la nucléarisation militaire de l'Iran, mais qui ont effectivement une date de péremption, qui est en 2025. Donc, l'idée serait de prolonger ces mesures-là. Le deuxième pilier, donc c'est ça. Le troisième pilier serait le programme balistique. Et le quatrième pilier serait sur l'interventionnisme de l'Iran dans la région. Et en fait, cette stratégie de Macron est très intéressante parce qu'elle permet d'une part de dire aux Américains « on comprend votre position ». Et donc, on va faire un nouvel accord, et c'est vrai, et de dire aux Iraniens, nous n'allons pas faire de nouvel accord, nous allons maintenir l'accord, ce qui est vrai aussi.
Et du coup, ça serait plus acceptable à condition donc de mettre d'accord non seulement l'Iran, les États-Unis, la France, mais aussi d'autres pays, la Russie par exemple, et dans le jeu du point de vue régional, qu'est-ce qui pourrait arriver dans ces conditions ?
Oui, c'est vrai que ça serait extrêmement difficile de convaincre la Russie. C'est pour ça que là, ce que voudrait faire Macron, c'est un véritable numéro d'équilibriste finalement, parce qu'il faut qu'il arrive à convaincre tout le monde de la nécessité de ramener tous ces acteurs à la table des négociations, ce qui est très peu probable.
Si c'est peu probable, dans ces conditions, est-ce que ça signifie qu'on va voir mettre un terme à cet accord sur le nucléaire iranien, Frédéric Ancel?
C'est extrêmement compliqué parce que Trump n'est pas le seul. Hein. 5+1, ça veut dire qu'il y a 6 États, si le compte est juste.
Hein. Rappelez-nous quels sont les États.
Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc vous avez aussi la Russie et la Chine, bien sûr, ainsi que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc Trump peut très bien retirer les États-Unis de l'accord. Il n'en demeure pas moins que les autres États peuvent considérer que cet accord, malgré tout, tient toujours. Et j'ajoute que la Chine et la Russie pourraient tenter d'augmenter leur aide économique et financière à l'Iran au prorata de ce que le retrait américain coûterait à Téhéran. C'est une hypothèse, hein. Je ne sais pas si c'est facilement faisable, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, les sanctions américaine notamment sur l'Iran, notamment sur le plan bancaire et financier, coûte extrêmement cher. Et je vois pas très bien comment les Chinois pourraient compenser cela. Cela dit, si...
Il pourrait le faire
par un système de troc en favorisant l'économie iranienne, en lui achetant davantage par exemple de pétrole qu'à d'autres États. Bon, on peut toujours trouver des moyens de favoriser un régime qui est aux abois. Et je dirais que de ce point de vue-là, les Américains n'auraient pas gagné grand-chose, parce qu'ils se retireraient au contraire plus encore de la région, en moyennant quoi les Russes et les Chinois, eux au contraire, seraient là pour la reconstruction future de l'Iran lorsqu'elle adviendrait.
Quelle est la situation économique aujourd'hui en Iran, Leïla Rousselet? Qu'est-ce que l'on sait de l'économie de ce pays, sachant qu'il y a eu un certain nombre de troubles, que la situation sociale n'est pas absolument calme?
Oui, bien sûr, la situation sociale et économique en Iran est toujours extrêmement compliquée. Donc ça dure depuis des années en raison de l'embargo et des différentes sanctions. Et effectivement, les Iraniens pensaient que la situation allait s'améliorer presque automatiquement avec la levée des sanctions, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il y a beaucoup de régimes de sanctions qui ont été rajoutés pour d'autres raisons que le nucléaire, pour les questions de droits de l'homme notamment. Et donc finalement, la situation ne s'est pas améliorée autant qu'ils l'auraient espéré.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire fort taux de chômage? Ça veut dire que le système éducatif iranien, qui est extrêmement développé, ne parvient pas à donner un débouché véritable à tous ces diplômés?
Oui, oui, et d'ailleurs, on le voit, il y a une vraie fuite des cerveaux. Il y a beaucoup d'Iraniens qui partent à l'étranger. Et le taux de chômage est très élevé. Il y a beaucoup de problèmes au niveau bancaire. Donc, c'est vraiment une économie extrêmement fragile.
Avec, là aussi, un jeu régional qui est extrêmement complexe, puisque dans le jeu avec la Russie, notamment, il est question d'une pièce maîtresse qui est ce qui va se dérouler en Syrie et des intérêts qui sont des intérêts possiblement divergents. Quel est le rôle de l'Iran aujourd'hui en Syrie? Rappelez-le-nous, Frédéric Ancel.
Ah, c'est un rôle important, un rôle politique et militaire important. En 79, Khomeini prend le pouvoir, faisant chuter le Shah, et le seul État arabe qui suit à l'époque l'Iran, et qui d'ailleurs ne fera jamais défection, c'est la Syrie, de Hafez al-Assad, donc feu, le père de l'actuel Bachar el-Assad. D'autre part, ce régime est constitué majoritairement d'alawites. Alors vous avez environ 10% d'alawites en Syrie. C'est une branche du chiisme. Hein. Bon. Et les Iraniens jouent beaucoup là-dessus parce que la politique de l'Iran aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le pan-chiisme. Autrement dit, c'est le soutien à des régimes ou à des communautés, à des groupes chiites sur l'ensemble du, qui sont disséminés sur l'ensemble du Moyen-Orient, dont bien évidemment les Assad. Et ces dernières années, donc dans le cadre de la guerre civile en Syrie, eh bien de plus en plus de gardiens de la révolution, donc les fameux Pasdaran, mais également des soldats, des officiers de l'armée régulière d'Iran et beaucoup de matériel ont contribué à littéralement sauver Bachar al-Assad, notamment en 2013-2014, aux côtés des Russes. Donc vous avez aujourd'hui une implication iranienne à la fois politique et militaire extrêmement importante, ce qui permet d'ailleurs, entre nous soit dit, pour les Iraniens de mettre les pieds en Méditerranée, puisque le continuum aujourd'hui pro-iranien, hein, c'est donc bien évidemment l'Iran, une grande partie de l'Irak, majoritairement chiite, la Syrie, enfin le régime syrien, et puis le Hezbollah, qui est la milice la plus puissante et de loin au Liban, et qui a les pieds en Méditerranée.
Et puis alors, un pays dont on a peu parlé, mais qui finalement explique probablement beaucoup de choses, à la fois sur l'accord ou l'absence d'accord sur le nucléaire iranien, la question donc de l'équilibre de la terreur avec Israël et avec les États-Unis, c'est l'Arabie Saoudite, Frédéric Ancel.
Ah oui, je pense que là, il faut absolument insister sur un point précis concernant Trump et l'Arabie Saoudite. Trump a été au moins cohérent sur un point depuis le début de sa campagne électorale et jusqu'au moment où nous parlons. C'est la volonté farouche de ramener des emplois aux États-Unis et notamment dans la sphère industrielle. Eh bien, le 5 juin dernier, Trump se rend en visite officielle en Arabie Saoudite. Vous vous en souvenez ? On effectue cette fameuse danse tribale traditionnelle. C'était très joli, mais surtout, on a parlé, enfin les Saoudiens...
Votre esthétique.
Ont promis, oui, je reconnais que pour le coup, c'était pas la meilleure.
Donald Trump dansant, voilà.
Voilà, mais surtout, les Saoudiens promettant. Et promettant quoi ? D'acheter pour 130 milliards de matériel militaire aux États-Unis sur les 10 prochaines années. Et Trump revient aux États-Unis triomphalement avec ce qu'il avait promis pendant la campagne électorale. Or, aujourd'hui, sur la planète, combien sont les États ayant encore, pour l'instant en tout cas, la capacité d'une part et la volonté d'autre part d'acheter autant de matériel américain ? Ben, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, dont l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite, là encore, ça n'aura échappé à personne, est aujourd'hui vent debout contre l'Iran, c'est le moins qu'on puisse dire. On assiste à une véritable guerre froide extrêmement dure entre les deux principaux pôles, respectivement du sunnisme et du chiisme.
Et là aussi, c'est une autre pierre dans le jardin de la géopolitique, puisque à l'époque de George Bush fils, on expliquait que l'Arabie Saoudite était une sorte de petit Satan. Il y avait même eu un certain nombre de notes du Pentagone pour expliquer qu'il fallait attaquer l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on a un renversement des alliances. L'Arabie Saoudite, selon vous, Frédéric Ancel, est l'allié des États-Unis. C'est l'allié d'Israël, puisqu'on a même eu une déclaration du prince Mohammed Ben Salman expliquant qu'Israël avait le droit à l'existence, qui est une véritable révolution dans la région. Comment expliquer là aussi ce revirement ?
Le revirement, il date en fait surtout d'Obama, parce que autant Bush, alors pas Bush fils lui-même, mais dans son entourage néoconservateur, on considérait que l'Arabie Saoudite était devenue un problème plutôt qu'une solution. Mais ça date du 11 septembre, puisque 15 des 19 terroristes étaient saoudiens, et on s'est enfin aperçu que dans les écoles saoudiennes, on apprenait des horreurs sur les chrétiens, les juifs, les américains, les croisés, etc. Bon. Obama a considéré qu'il fallait effectivement rééquilibrer ses relations au Moyen-Orient, se rapprocher de l'Iran, d'où d'ailleurs sa farouche volonté, qui a été rappelée tout à l'heure par Lila, de passer un accord nucléaire avec l'Iran, pour au moins apaiser les tensions et sans doute ouvrir un marché de 90 millions de personnes avec un niveau de technicité dont vous avez rappelé avec raison qu'il était extrêmement élevé. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a au sein du monde musulman un clivage extrêmement dur que je n'hésite pas à qualifier de guerre civile entre chiites et sunnites, d'une part entre nationalistes et islamistes d'autre part, et que l'Iran et l'Arabie Saoudite dans ce schéma général sont excessivement opposés, les Américains choisissent, j'allais dire, assez naturellement ceux qui peuvent, encore une fois, pardon, c'est un peu trivial, hein, notamment pour peut-être pour nos auditeurs, parce que nous sommes en France, mais aux États-Unis, on plaisante pas avec les emplois, et notamment avec ce que l'Arabie Saoudite peut apporter à l'économie américaine.
Et de la même façon, Lélia Rousselet, lorsqu'on essaye d'expliquer les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, là aussi, on a l'impression qu'elles se sont singulièrement détériorées ces dernières années. Comment expliquer cela ? Était-ce une crise larvée qui n'était pas visible pour les observateurs? Quels sont les points saillants à cet égard, selon vous?
Alors, bien sûr, c'était une guerre d'influence qui était déjà larvée depuis longtemps, mais qui s'est cristallisée autour d'un certain nombre de conflits, donc notamment le conflit au Yémen et le conflit en Syrie. Donc, c'est, je pense, autour de ces deux éléments-là que ça s'est cristallisé.
Et lorsque l'on explique cela comme étant une ligne de fracture entre sunnites et chiites, est-ce que ça rend compte de la totalité de cet affrontement, Frédéric Ancel?
En grande partie. Hein. Aujourd'hui, au Yémen, en Syrie, jusqu'au Pakistan, en Irak, bien évidemment, vous avez ce clivage qui est extrêmement dur, qui est davantage qu'un clivage. Hein. Aujourd'hui, vous avez une fracture très dure entre très profonde entre ces deux mondes qui d'ailleurs n'ont pas toujours été opposés, loin de là, que sont les chiites et les sunnites. Une instrumentalisation du religieux au profit du politique, notamment par Riyad et par Téhéran, c'est pas nouveau. Mais là, c'est extrêmement violent.
Dernière pièce maîtresse, on a débuté en évoquant la déclaration lundi 10 avril de Benjamin Netanyahou au sujet donc de pseudo-révélation, puisque vous nous avez dit que tout cela, on le savait au sujet du nucléaire iranien. Israël joue a priori un jeu assez dangereux, puisque rompre cet accord avec l'Iran, c'est prendre le risque d'ouvrir un conflit avec l'Iran. Or, l'Iran, par l'intermédiaire du Hezbollah, est présent à une frontière israélienne, la frontière libanaise, Frédéric Ancel.
Oui, sortira dans quelques semaines la prochaine livraison de l'excellente revue géopolitique Hérodote, au comité duquel j'ai l'honneur de figurer, et j'y dis que, au fond, l'Iran et Israël sont les deux meilleurs ennemis. Je veux dire par là que depuis 79 et la révolution khoméniste, il n'y a jamais eu de guerre directe, et même 2006, la guerre de Hezbollah contre Israël, rien ne prouve que l'ordre donné au Hezbollah d'attaquer provenait de Téhéran.
Autrement dit, le Hezbollah qui se serait lui-même...
Oui, parce que le Hezbollah a son propre agenda. Il a son agenda politico-militaire, c'est un groupe qui n'est pas iranien, qui est arabe, qui est libanais, et dont les intérêts se situent essentiellement au Liban. Donc, si vous voulez, que les Israéliens craignent, et c'est leur droit, la montée en puissance du Hezbollah sur toutes leurs frontières septentrionales, et maintenant l'arrivée de militaires iraniens sur leurs frontières nord-est, aux abords du plateau du Golan, on peut tout à fait
suite
le concevoir.
Suite à la situation en Syrie,
bien sûr.
Expliquer aux auditeurs.
On peut tout à fait le concevoir, parce que, encore une fois, il y a une percée de l'Iran dans la région, mais je reste tout à fait circonspect quant à la possibilité d'un conflit entre Israël et l'Iran. Je pense que chacun joue davantage en interne, en quelque sorte. Hein. Tout à l'heure, on évoquait les durs et les modérés, ou les pragmatiques et les dogmatiques au sein de la classe politique dirigeante iranienne. Les conservateurs essuient systématiquement leurs pieds sur le commode paillasson sioniste, israélien, satanique et tout ce que vous voulez, pour en réalité tenter de se maintenir ou de revenir davantage au pouvoir. Et Netanyahou, on l'a bien dit en début de cet entretien, aujourd'hui, il joue surtout sa carrière politique.
Mais, en tout cas, la dernière fois qu'Israël a affronté le Hezbollah, la situation n'a pas été véritablement à l'avantage de l'armée israélienne.
Vous avez raison, mais les Iraniens ne sont pas intervenus. Et ce qui confirme ce que je crois, en tout cas c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que nous avons affaire entre les Hezbollah et Israël à un conflit frontalier extraordinairement localisé. Ça ne veut pas dire que le Hezbollah n'est pas soutenu par les Iraniens. Il l'est, et il l'est massivement depuis leur création, d'ailleurs par Téhéran en 82. Mais ça signifie que jamais l'Iran n'a attaqué directement Israël, jamais Israël n'a attaqué directement l'Iran. En revanche,
mais est-ce que ça n'est pas entre les lignes ce que dit le chef d'état-major israélien aujourd'hui en disant s'il y a un nouvel affrontement à la frontière libanaise, nous n'hésiterons pas à frapper l'Iran par exemple?
Alors à frapper les intérêts iraniens ou des bases iraniennes, c'est-à-dire en Syrie. Mais comme Israël le fait très régulièrement à chaque fois qu'il y a des convois de matériel. Israël a fait il y a quelques jours, en réplique à l'envoi d'un drone iranien dans l'espace aérien israélien. Mais tout ça reste pardonnez-moi l'expression, relativement feutrée au regard de la catastrophique guerre civile qui se joue au Yémen, en Syrie ou en Libye quand même.
Relativement feutrée, mais il y a toujours un risque d'escalade, puisque on voit que la région est de plus en plus clivée avec les deux pôles, avec Riyad, l'Arabie Saoudite d'un côté et l'Iran et Téhéran donc de l'autre. Vous n'avez pas peur qu'il y ait effectivement une spirale de guerre ?
C'est toujours un risque. Les risques d'accidents, soit techniques, soit politiques, existent toujours. C'est ce que j'appelle le syndrome Nasser en 67. Est-ce qu'il voulait vraiment attaquer Israël ? Oui, non, on le saura jamais. Sauf qu'il s'est approché trop au bord du gouffre. Et la politique du bord du gouffre, ben oui, ça mène parfois celui qui l'a joué dedans, au fond. Donc c'est toujours un risque. Je préfère rester optimiste. Pourquoi ? Parce que empiriquement, je le répète, depuis 79, d'ailleurs on peut remonter sur les deux derniers siècles, mais je vous en ferai grâce, le pouvoir iranien a plutôt démontré un certain pragmatisme et une certaine prudence en matière d'affaires étrangères, et c'est vrai aussi globalement pour les gouvernements israéliens.
Oui, puis il faut rester optimiste, puisque comme le disait Shimon Peres, qu'est-ce qu'on fait avec le pessimisme ? Merci beaucoup. Frédéric Ancel, je rappelle votre ouvrage « Mon dictionnaire géopolitique ». Merci Lélia Rousselet. « Négocier l'atome, les États-Unis et les négociations de l'accord sur le nucléaire iranien », c'est le livre que vous avez publié chez L'Harmattan.